France Culture.
Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
En 1981, Michel Piccoli jouait la Cerisaie au Bouffe du Nord dans une mise en scène de Peter Brook. Cette même année, on pouvait voir Michel Piccoli au cinéma dans Contes de la folie ordinaire de Marco Ferreri et dans Le mépris qui ressortait en salle. En 81, Michel Piccoli retrouvait d'ailleurs Jean-Luc Godard pour Passion qui devait sortir l'année suivante. Ferreri, Godard, Claude Jean-Philippe trouvaient là un très bon motif pour inviter Michel Piccoli à venir se souvenir, dans le cinéma des cinéastes, du tournage du Mépris et de sa rencontre avec Marco Ferreri pour Dillinger est mort. Entendre Michel Piccoli parler de ses rencontres avec quelques-uns des hommes les plus remarquables de l'histoire du cinéma, c'est avant tout entendre un comédien dire le bonheur qu'il aura eu de travailler avec eux, d'avoir été tout à la fois l'acteur de leur film et le spectateur privilégié, séduit et attentif de chacun des moments passés auprès d'eux. Qu'il s'agisse de Jean Renoir, de Marco Ferreri, de Jean-Luc Godard, qu'il s'agisse aussi d'un monument du cinéma qui jamais ne le dirigea mais fut son partenaire dans Le Mépris, Fritz Lang, avec lequel Michel Piccoli ne manqua jamais une occasion par la suite de prolonger la conversation lors des visites qu'il lui rendait à Hollywood, ou qu'il s'agisse enfin de Louise Buñuel, auquel le liaient 6 films et une profonde amitié. Le cinéma des cinéastes entretient avec Michel Piccoli une émission diffusée la première fois le 25 octobre 1981 sur France Culture.
Ce ne sont plus ceux qui cultivent les beaux-arts, ce ne sont pas ceux qui s'occupent de l'art, art poétique ou bien musique. Les artistes sont les acteurs, les actrices.
Si nous étions des artistes, nous ne dirions pas le cinéma, nous dirions le ciné.
Mais si nous étions de vieux professeurs de province, nous ne dirions ni ciné ni cinéma, mais cinématographe.
Aussi, mon Dieu, faut-il avoir, avoir du goût.
Michel Piccoli, la reprise du Mépris de Godard nous donne l'occasion de vous rencontrer et je vous remercie d'avoir accepté cet entretien avec le cinéma et cinéaste. Mais je dois d'abord rappeler des souvenirs personnels qui remontent aux années 50, quand j'étais jeune étudiant à l'IDEC, et qu'un jour j'étais allé dans un théâtre, qui était peut-être le théâtre Marigny, pour une pièce dont j'ai oublié le titre, mais la chose dont je me souviens, c'était que c'était la première fois que je vous ai vu, et vous teniez la scène pendant tout le spectacle avec une intensité prodigieuse, et je m'étais dit, ce comédien est prodigieux, c'était quelle pièce ?
C'était une pièce d'Hugo Betti.
C'est ça, voilà.
Oui, l'Irène innocente d'Hugo Betti.
C'est ça, voilà.
Oui.
Et vous étiez en scène tout le temps avec
une intensité. C'était au Petit Marigny.
C'est ça,
c'était
voilà.
C'était quand Jean-Louis Barrault avait fait ce petit théâtre, que certains, dont Madeleine Renaud, disaient « Oh, c'est le joujou de Jean-Louis ».
C'est ça. Et dans ces mêmes années, d'ailleurs, on est assez peu à vous reconnaître dans le rôle de French Cancan que vous avez, puisque vous jouez un officier très caricatural. Et nous sommes assez peu à dire, tiens, c'est Piccoli jeune. Et...
Mais oui, mais vous êtes un savant, alors. C'est bien sûr, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour parler avec vous, ça va être difficile, d'ailleurs. Moi, je ne suis pas un savant. J'ai de la mémoire, c'est tout.
Non, mais alors, Non, c'est, on fait un peu la liste de vos rencontres.
Bien sûr, bien sûr.
Œuvre noire, c'est une extraordinaire rencontre jeune comédien.
Oui, oui, et la rencontre était extraordinaire parce qu'elle s'est passée au théâtre également. Je me souviens, je jouais une pièce d'André de Richaud. Enfin, une pièce de Calaferte. Il y avait trois spectacles avec Michel Deray, dont une pièce de Richaud, une pièce de Calaferte. Et comme tout comédien, jeune ou moins jeune, on aime que les grands de ce monde viennent apprécier. Et j'avais demandé à Renoir et à Buñuel de venir au théâtre. Et, un hasard extraordinaire, Renoir et Buñuel sont arrivés le même soir au théâtre pour voir la pièce. C'est comme ça que j'ai eu la chance de les connaître. La chance d'être vraiment ami avec Buñuel tout le long de depuis ce temps-là. Et Renoir est venu là également. Et je me souviens que dans les coulisses, Renoir est venu pour saluer les artistes parce qu'il aime tellement les acteurs. Il était là, tonitruant, généreux. Et Buñuel, lui, s'est tiré parce qu'il ne voulait pas venir comme ça dans les coulisses se montrer. Et il ne voulait pas rencontrer Renoir non plus. Ça gênait beaucoup de rencontrer Renoir. Très grand metteur en scène, mais quand même, il avait travaillé avec Chiano, j'ai pas envie de le rencontrer.
Ah oui, oui, au moment de la Tosca.
Oui.
J'aimerais dire quand même que Louis d'Aquin a été une pierre aussi importante dans votre carrière cinématographique.
En Capital, c'est la première fois que je joue au cinéma, et d'Aquin était un grand type. Hein. C'était un grand type, contrairement à tout ce qu'on a pu dire sur lui. Un grand type. Et il faisait partie de ces gens qui, avec l'âge, rajeunissaient. Je dis ça parce que c'était le cas de Renoir, à part sa maladie, bien sûr.
De Renoir, de Buñuel,
c'est le cas de Buñuel.
De Lang, dont on va parler.
C'est le cas de Lang, ouais. C'est le cas de tous ces vieillards qui sont plus jeunes que nous tous. Enfin, c'est extraordinaire. Plus ils vieillissent, plus ils deviennent
bon,
jeunes.
Alors, parlons, autant que vous puissiez vous en souvenir, de Renoir, vous dirigeant dans ce rôle de cet officier qui est très caricatural et très mécanique. Et c'est un personnage très, très Renoir, parce que Renoir, à cette époque-là, est allé de plus en plus dans le sens du personnage un peu pantin.
Oui, pantomime presque. Pantomime. Mais Renoir disait une chose. Il n'y a pas de mauvais acteurs, il n'y a que de mauvais metteurs en scène. Et quand il nous dirigeait, quand il dirige les acteurs, c'est un type extrêmement généreux, chaleureux, sensuel. Et il disait toujours, après chaque prise, il disait, c'était pas tant. On va recommencer, mais c'était pas tant. Voilà. Alors il vous mettait comme ça dans une espèce de bain de jouvence. J'ai hélas très peu tourné avec lui, mais je m'en souviens de cette scène. C'est par dépit, comme vous dites, la réplique de cette scène, où j'avais une peur terrible, parce que je devais jouer avec Maria Félix, qui était une panthère à l'époque, qui l'est toujours d'ailleurs, une panthère dangereuse, et qui la veille, il y avait une scène avec Françoise Arnoux, ça s'était terminé par une paire de claques, on a dû arrêter le tournage pendant 2 jours.
Donc l'histoire du film se retrouvait dans la vie.
Oui, oui, oui. Et le lendemain, je devais me ruer sur elle, sur un divan, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui va m'arriver ? Ça s'est très bien passé. et Renoir, je l'ai revu après, comme ça de temps en temps, j'allais le voir avenue Frochot, chez lui. Mais hélas, après, il est parti aux États-Unis, et puis je l'ai revu quand on lui a remis sa Légion d'honneur à Los Angeles, et j'étais là par hasard, et c'était très triste parce qu'il fallait que sa femme lui explique bien qui était devant lui. Alors j'ai eu cette courte expérience avec Renoir.
En vous entendant parler déjà comme ça des metteurs en scène que vous avez connus, on a l'impression, en réfléchissant avant de vous interviewer, je me suis dit, mais est-ce qu'il s'agit réellement de jeu ou est-ce qu'il s'agit de complicité ? Or moi j'ai vraiment l'impression que dans votre cas, et de votre envie d'aller voir Renoir et Frochot, et de votre envie, je sais que vous avez été revoir Lang souvent après Le Mépris,
bien sûr,
etc.
Bien sûr.
Il s'agit, comment dire, de complicité, d'amitié, de divination.
Non, le jeu finalement d'un acteur, c'est une complicité.
Mais vous dites d'un acteur, non, pas tous les acteurs, vous.
Enfin, je crois.
Oui.
Je suis sûr même que quand un acteur est au mieux de son état, il y a une complicité totale, même osmose avec le metteur en scène, ou l'écrivain aussi, ou l'auteur.
Oui.
C'est mon cas, j'ai cette chance, j'ai ce besoin, mais ça arrive pour beaucoup d'autres acteurs. Ou alors il y a d'autres acteurs qui sont complètement paniqués et braqués par le cinéma, qui sont de merveilleux acteurs, qui travaillent aussi avec des metteurs en scène qui n'aiment pas les acteurs. Ça existe que les metteurs en scène n'aiment pas les acteurs. Ils ont peur des acteurs. Il y a beaucoup de metteurs en scène qui ont peur des acteurs, qui ne savent pas être en complicité, justement. Parce que diriger un acteur, ce n'est pas tellement le manipuler ou lui dire « fais ça, fais ci ». Et pardon d'avoir l'air prétentieux, mais je crois qu'on a toujours eu tort de dire qu'un acteur n'était pas créateur. On est le créateur à la fin, Mais il faut justement arriver à suivre toute la marche initiatique qu'il peut y avoir. Pourquoi un metteur en scène ou un auteur écrit ça? Il faut suivre, il faut écouter. Et je crois que le rôle d'un acteur, c'est de parfaire ce qu'a écrit le premier créateur.
C'est ça.
Et oui. D'inventer même sur lui. Finalement, ce que propose un scénariste ou un metteur en scène, c'est un canevas. Et sur ce canevas, ils réécrivent les metteurs en scène en tournant. Exemple Godard, par exemple. C'est quelquefois mal interprété, parce qu'on a dit de Godard, il ne sait pas faire le cinéma, il improvise le moment, c'est du n'importe quoiisme. C'est pas du tout ça. Il y a un canevas, une chose très précise, et à ce moment-là, on invente. Et là, l'acteur doit être suffisamment en complicité avec le metteur en scène pour inventer avec lui. Voilà.
Alors justement, alors, racontons l'histoire, l'aventure du mépris, dont on voit maintenant avec une évidence qu'il s'agit bien d'un chef-d'œuvre, et que vous y avez participé dans un rôle qui est celui de Javal, de scénariste, et qui présente beaucoup de traits communs, qui prononce un certain nombre de phrases que Godard lui-même aurait pu prononcer dans la vie, à propos de ses goûts en particulier, de Nicolas Ray, de certains cinémas américains, etc. Alors moi, je voudrais savoir comment la rencontre s'est faite entre vous et Jean-Luc Godard. À ce moment-là, vous êtes déjà un acteur célèbre.
Non.
Si, quand même, par la télé, un peu, non.
Un peu par la télé, oui, grâce à Don Juan, la Duval, la télévision.
Même, et puis
au théâtre, je jouais dans les petits théâtres devant un peu de public, mais enfin, j'avais déjà. Oui, bon, mais j'étais pas célèbre du tout. Et avec Godard, ça s'est passé de la façon la plus plate et la plus simple au début. Il m'a convoqué, il m'a dit voilà, je dois tourner Le Mépris de Moravia. Je dis ah bon. Voilà, est-ce que vous voulez que je vous donne le livre à lire? Par chance, je l'avais lu, mais je dis je l'ai lu. Ah bon, ben là, on va tourner. Et j'ai senti que ce n'était pas la peine que je lui pose des questions. Je sentais que c'était une espèce de précision. On va tourner. Ben, il m'a dit, on va tourner, alors on tourne. Et on ne s'est rien dit. Je crois qu'une fois, est-ce que c'était avant ou après, il m'a dit, le personnage que tu joues, c'est un personnage de Rio Bravo qui aurait aimé jouer dans Marianne Bad. Alors, vous allez me dire, mais expliquez-moi ce que ça veut dire. Je ne pourrais pas vous l'expliquer, mais quand quelqu'un vous dit ça, ça vous fait rêver et ça vous fait imaginer tout. Puis en fait, c'est très clair, non?
Non, mais est-ce que vous étiez cinéphile à cette époque-là, ou un peu?
Non, je commençais. Je dois dire qu'avant, j'étais ce que j'appelle un fanat de l'art drama, du théâtre, et je ne savais pas ce que c'était que le cinéma. Je n'avais jamais eu, étant petit ou jeune, de passion pour tel metteur en scène ou pour tel star de cinéma. J'étais ignare. Et j'avais commencé à faire du cinéma, sauf avec Daquin, où j'avais commencé à comprendre, parce que Daquin, c'était quand même un homme de cinéma, c'était un vrai homme de cinéma, c'était un vrai inventeur de cinéma. D'ailleurs, le point du jour que j'ai tourné avec lui est un film qui n'a pas vieilli du tout et qui est très très beau. Mais après, j'ai fait des films, disons, un peu alimentaires. Je n'ai aucune honte, il n'y a pas de mal à dire ça, sauf avec Chenal, où j'ai fait des choses avec Chenal qui étaient assez passionnantes. Je crois que c'est grâce à un film que j'avais fait avec Chenal, d'ailleurs, que Godard m'avait demandé de jouer Le Mépris. Et donc j'avais eu un début de carrière cinématographique, comme on dit, mais qui a avorté. Ça ne me troublait pas, parce que j'étais très heureux dans mes théâtres. Et je me suis dit, quand même, c'est un monde et c'est une possibilité de jouer la comédie devant ce microscope qu'est la caméra. Je commençais à me passionner devant le cinéma, et je me suis dit, ben, je vais essayer de recommencer. C'est pour ça que j'avais eu la chance de faire un rôle court dans Le Doulos avec oui. Melville, ou un rôle court dans un film de Clément, Le Jour et l'Heure. Enfin, je me dis, je vais travailler avec des gens. Enfin, je commençais à savoir ce que c'est le cinéma. Et Godard, je dois dire, ça a été pour moi une révélation. Et un atout en tant qu'acteur extraordinaire, un apport extraordinaire.
Il ne vous dit rien. Est-ce que vous avez ressenti implicitement qu'il n'y avait pas entamé la conversation, puisqu'on n'entame pas la conversation si facilement que ça avec Jean-Luc Godard, et que ça faisait partie du jeu entre vous.
Oui,
et que c'était déjà, la complicité ou la direction d'acteur, comme on dit, entre guillemets, était déjà commencée.
Dès que je me suis retrouvé, c'est le premier jour de tournage, ou dès qu'on a débarqué à Capri, ou à Rome, c'est à Rome qu'on avait commencé, j'ai senti entre nous, enfin j'étais d'une telle disponibilité vis-à-vis de lui. Il me fascinait tellement, parce que je connaissais quand même ses autres films. Et je ne sais pas, il y a eu une affinité, il y a eu une amitié, une complicité qui s'est créée dans le silence. Enfin,
dans le silence, c'est ça.
Oui, oui. Et j'avais compris aussi que, dans le fond, je joue un peu Godard dans le film.
Oui, c'est ça.
Godard n'est pas le personnage lâche que je joue dans le film. mais
il a peut-être peur de cette lâcheté.
Exact, c'est ce que j'allais vous dire. Il a peur, il hait la lâcheté que pourrait avoir tout artiste. Comme dirait Buñuel, les artistes, je déteste. Mais alors, je jouais Godard, mais Godard pour exorciser le mauvais, la mauvaise pente, le mauvais jeu, le mauvais comportement, les mauvaises pensées. En fait, je jouais Godard et je jouais le contraire de Godard.
C'est ça. Mais est-ce qu'il vous a jamais donné une explication psychologique?
Jamais.
Par exemple, parce qu'il y a ce moment tout à fait extraordinaire, et d'ailleurs je ne vois pas comment quel autre que vous aurait pu le faire si bien, le moment comme ça, tout à fait au début, quand vous laissez partir Camille Brigitte Bardot avec Palance.
Oui, oui, oui.
Et qu'on se dit, qu'il y a quelque chose d'obscur là-dessous, soit quelque chose qui est de l'ordre de... D'un calcul, soit même quelque chose qui est de l'ordre d'une perversité érotique quelconque qui consiste à mettre en danger sa femme et on sent tout ça sans que...
Mais là, je ne me souviens vraiment pas, il ne m'a jamais donné des motivations ou d'explications psychologiques. Et je crois que déjà, j'ai toujours été fasciné, moi, par l'ambiguïté, la perplexité et les abysses chez les êtres.
Ouais.
C'est ce qui m'amuse, entre autres, au jeu de la comédie. Et alors là, je crois que c'est... tout ce que vous dites, peut-être je le ressentais en jouant, mais je ne crois pas qu'il l'a, dans ce cas précis, il m'ait dit...
Parce qu'en plus, c'est parfaitement clair. C'est-à-dire, on sent vraiment qu'il y a une espèce de faiblesse de votre part à ce moment-là, que comme un genou qui flanche, enfin, moralement, quelque chose comme ça, mais qu'en même temps, c'est pas. Mais qu'en même temps, vraiment, on ne sait pas que c'est peut-être un malentendu complet, quoi, sur vos intentions.
Oui, tout le personnage est dans cette espèce au bord de la catastrophe et de la faille, sans arrêt. Et là, je dois dire que je nageais comme un poisson dans l'eau, dans ces méandres du personnage.
Qu'est-ce qui se passe quand on a terminé une prise? Est-ce qu'on se tourne vers Godard?
Je ne sais pas, j'étais tout le temps tourné vers Godard, moi.
Même
en dehors du tournage. On habitait dans le même hôtel, on se voyait assez souvent en dehors du tournage, mais on ne parlait pas pour autant plus du film, quoi. Mais il y avait aussi les rapports de Godard et de Fritz Lang qui me fascinaient. Cette espèce de fascination mutuelle l'un pour l'autre. Complètement discrète aussi. Le personnage que je jouais était devant aussi trois personnages qui me fascinaient. Enfin, le personnage de Paul Gérald que je joue est devant trois monstres qui le fascinent. Sa femme Bardot en plus, parce que jouer avec Bardot est quelque chose d'assez troublant et inquiétant. Jouer avec Bardot à l'époque et dirigé par Godard, ça met déjà dans... Alors je me trouvais devant quatre monstres finalement. Le monstre Bardot, dans un certain domaine, le monstre Godard, Fritz Lang et Palance aussi. Alors j'étais là vraiment, je m'amusais à me balancer, à essayer de vivre.
À ce propos des quatre monstres, j'ai lu quelque part, je ne sais plus dans quel journal, que Brigitte Bardot ne conservait pas un très grand souvenir, elle conserve un grand souvenir de vous, parce qu'elle n'arrête pas de dire que c'était merveilleux, l'amitié avec Piccoli, nous entendions admirablement passer notre temps à rire.
C'est vrai.
Alors qu'elle garde un souvenir d'un Godard froid et pagué.
Oui, mais parce qu'on dit, en effet, si on n'est pas extrêmement attentif, extrêmement chaleureux vis-à-vis de ce comportement de Godard, qui est un être tellement d'acier, écorché, précis, une espèce d'autorité comme ça, nerveuse, alors on peut être tout à fait refroidi, tout à fait. Il faut vraiment, avec Godard, lui apporter énormément pour accueillir ce qu'il peut vous donner, car il peut donner énormément. Dans le fond, c'est un type extrêmement généreux, d'une tendresse fantastique, d'une émotion, d'une générosité, d'une intégrité formidable. Mais il est tellement rigoureux que... Il n'y a pas de déperdition, de mauvais copinage ou de mauvaises plaisanteries qui peuvent aider à mettre des liens entre tous les individus, particulièrement dans un lieu comme un tournage qui est un microcosme de tension bonne et mauvaise. Alors si on n'est pas heureux avec un homme comme ça, on est mal à l'aise.
Oui, mais alors, tout de même, ce qui est étonnant, c'est que moi, je crois que Bardot et Godard sont vraiment deux épicentres, vraiment, de ce qui s'est passé dans le cinéma français dans ces 20 dernières années. Mais elle a vraiment préféré la vie, et lui a vraiment préféré le cinéma, et d'une certaine façon, actuellement, ils sont, dans ces dernières interviews, Godard s'en veut, s'en veut et se défend en même temps d'avoir trop aimé, d'être passé quand même quasiment de l'autre côté de la vie, c'est-à-dire
dans le miroir du cinéma, pas dans le miroir
alors
de la vie.
On en revient
à Paul Javal, le personnage du mépris.
C'est ça. Oui, mais alors, peut-être que la force du film, c'est précisément Godard d'un côté, cette espèce de vie vouée à l'art,
oui.
Bardot de vie vouée à la vie, c'est très clair, ce qui la rend tellement éclatante,
oui.
Et vous, vraiment, oscillant entre les deux, et c'est ce qui fait peut-être...
Oui, mais il y avait dans la pendant le tournage, c'était mon rôle d'acteur et mon rôle d'homme, j'oscillais vraiment entre les deux. J'essayais de faire le lien entre les deux. J'arrivais à être une osmose parfaite avec Jean-Luc et en même temps, j'étais en accord parfait dans l'autre monde avec Brigitte.
Et quitte à ce qu'il ne se passe rien entre les deux personnages.
Exactement, voilà. Exactement. Alors je ne veux pas surpasser mon rôle, mais j'étais le trait d'union, si vous voulez.
Et de désunion, parce que dans le film, c'est le silence entre les deux personnages sur l'écran est un des silences les plus forts qu'on ait jamais entendu, si j'ose dire, sur un écran.
Mais Brigitte, au début du tournage, je me souviens, était très heureuse et très fascinée de travailler avec Godard. Elle n'a pas tenu la distance, parce que je la trouve admirable dans le film.
Elle est superbe.
Superbe, parce que c'est une actrice, un Bardot,
oui,
contrairement aussi à ce qu'on a dit.
Absolument.
C'est une vraie actrice, en plus du reste.
Oui.
Mais... Elle n'a pas tenu le choc, je sais pas. Elle n'a pas tenu la cadence.
Mais ça se retrouve à la fin du film, puisqu'à la fin, elle meurt. Enfin, c'est une tragédie.
Oui,
quoi.
Oui. Mais elle était passive, si vous voulez. Elle devenait de plus en plus passive pendant le tournage. Passive. Ce qui n'empêche pas, elle était présente. Et aucun caprice de sa part. Je veux dire. Une espèce de passivité. Être passif avec Godard, c'est impossible. Je veux dire.
Ou est-ce qu'on peut soupçonner Godard de l'avoir souhaité ou de s'être arrangé pour que ce soit comme ça?
Oh, je ne crois pas.
Non, ça s'est fait comme ça.
Oh, je ne crois pas. Je ne le pense pas. Je ne pense pas qu'il ait de ces petits machiavélismes.
Oui, c'est ça, voilà.
Il est plus fort que ça.
C'est ça. Tout de même, alors, dans le film, on sent... Alors là, parce que ce qu'on sent dans le film est l'inverse un peu de ce qui s'est passé dans la vie, mais pas pour ce qui est du personnage de Lang et de l'amitié entre Javal et Fritz Lang, puisqu'il porte son nom dans le film. Alors, je sais que cette amitié s'est retrouvée dans la vie, et je me souviens avoir lu dans un Figaro, un jour, qui m'était tombé sous les yeux, un tout petit entrefilet terrible, et qui racontait que vous alliez voir souvent Fritz Lang à Hollywood, et qu'il vous racontait un rêve, et que dans ce rêve qu'il faisait quasiment tous les soirs, il rêvait qu'il disait moteur, et qu'il était sur son plateau et qu'il demandait le moteur. Et alors moi, je voudrais vous entendre parler de Fritz Lang, parce qu'il semblerait qu'il y ait eu entre vous une très grande amitié.
Ah oui, ça, oui, c'est bien vrai. C'est venu, je crois, justement, on s'est connus sur ce mépris, et lui, Lang, était tellement fasciné par Godard. Il aimait tellement Godard, les films qu'il avait faits. Et puis, je crois que Lang n'était pas mécontent non plus de représenter Lang au cinéma.
Oui.
Ça l'amusait, je crois. Il ne se comportait absolument pas comme le pape du cinéma. Mais il y avait une espèce d'amusement et de joie à dire ce qu'il avait à dire, dire des choses qu'il a, je crois bien, qu'il a par moments inventé avec Godard, tout ce qu'il dit en allemand, etc. Mais de jouer ce Fritz Lang paisible devant ce producteur Prokosch, il les a connus bien avant, non ? Il s'amusait à revivre sa vie comme ça à travers le cinéma. Et puis j'ai eu la chance aussi, je vivais beaucoup avec Fritz Lang, on allait au tournage ensemble, on marchait ensemble pour aller au tournage. De temps en temps, il me parlait de mon jeu comme ça, ou du travail de Jean-Luc, mais pas du tout pour s'immiscer dans la manière dont je devais jouer, mais avec une espèce d'attention, pas paternelle, fraternelle, je ne sais pas comment dire, amicale. Et, je ne sais pas, nous sommes un peu tombés amoureux l'un de l'autre, Lang et moi. Mais en dehors du fait qu'il était le grand Lang et moi acteur. Et je l'ai revu beaucoup, enfin, j'allais peu à Hollywood, mais chaque fois que j'ai pu, j'allais le voir, oui. J'allais le voir parce que c'est un homme qui m'émotionnait d'une façon extraordinaire.
Mais quel portrait
et puis en plus, À Hollywood, quand on disait aux gens « j'ai rendez-vous soir avec Fritz Lang », tout le monde disait « mais il est mort, est-ce que vous allez ?» Alors, on a doublement envie d'aller le voir. On avait doublement envie d'aller le voir.
Quel portrait de lui est-ce que vous feriez maintenant? Enfin, quel trait saillant, quelle chose vous a frappé le plus?
Et là, je ne l'ai connu que lui n'étant plus metteur en scène.
Oui.
Mais d'une vivacité d'esprit et d'une attention vis-à-vis des choses qui se passaient dans le monde et la façon dont les jeunes cinéastes tournaient et les conférences qu'ils faisaient dans les universités, les rapports qu'il avait avec les jeunes en Amérique dans les universités, c'était extraordinaire ça.
Mais il n'était pas un peu devenu, disons, parce que moi je l'ai rencontré à cette époque-là, j'ai le sentiment qu'il comprenait pas vrai, qu'il admirait sans comprendre un peu ce qui se passait, par exemple du côté de Godard et du côté que ça le dépassait un peu, que ça le...
Non, ça
attention, je ne dis pas ça contre lui.
Non. Plusieurs fois, il m'avait envoyé des mots. Il suivait beaucoup tous les articles qu'il y avait sur Godard. Il suivait complètement ce que disait Godard. Et ça lui est arrivé qu'il m'ait envoyé des mots en me disant « Mais explique-moi pourquoi Jean-Luc dit ça. Pourquoi est-ce qu'il va s'enterrer? Où est-ce qu'il va s'enfermer? Qu'est-ce qu'il va devenir? Pourquoi il ne veut plus faire de cinéma ?» Mais c'était... Il avait peine à voir Godard avoir le mal de vivre. Lang n'a jamais eu le mal de vivre. Il a eu souvent le mal de tourner ou des difficultés monstrueuses, fantastiques. Mais moi, je l'ai connu, monsieur qui devenait âgé, qui était complètement clos dans sa maison modeste d'Hollywood, qui vivait avec une femme avec laquelle il a vécu depuis le début de sa vie à Hollywood, avec laquelle il s'est marié d'ailleurs un peu de temps avant.
Est-ce qu'il vous a jamais parlé? Est-ce qu'il vous a jamais, parce que ça c'est un des grands mystères de l'histoire du cinéma, mais il vous en a peut-être parlé à titre comme ça, incidemment, de ce qui s'est passé entre lui et Théa von Arbou? Est-ce qu'il parlait de Théa von Arbou? Est-ce que ça lui est jamais arrivé?
Non, parce que avec Fritz Lang, je ne parlais pas tellement de son histoire. On avait des rapports plutôt disons quotidiens, mais il ne s'étalait pas, il ne faisait jamais de conférences, il n'avait jamais de nostalgie de son passé. Il était très 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 secret.
Ah, je crois.
Extrêmement secret sur sa vie privée de cinéaste et vie privée en même temps, qui je crois ont souvent, comme tout le monde, ont souvent cohabité.
Oui, mais en même
temps, était extrêmement discret, extrêmement réservé.
Mais en même temps, simple comme bonjour dans ses goûts, dans tout ce qu'il disait. C'est quelqu'un qui disait jamais que des choses claires, des choses simples, des choses droites.
Absolument, absolument. Oui.
Je ne l'ai jamais vu rechercher, je l'ai rencontré plusieurs fois, je n'ai jamais vu rechercher la complexité pour la complexité. Au contraire, ça l'agaçait, tout ce qu'on disait de lui, l'expressionnisme, enfin, tous les théoriciens l'agaçaient profondément.
Absolument, oui. Et moi, je vous dis, je vous l'ai connu comme un homme qui essayait d'être paisible à la fin de sa vie. Voilà. Mais c'est un homme qui n'a jamais été paisible. Non, mais... Et je l'ai vu un peu s'éteindre, quand même, s'éteindre.
De voyage en voyage aux États-Unis.
Oui.
Mais parce qu'à la fin, il y restait complètement.
Il était dans sa pièce, dans un grand fauteuil. Il était allongé, il lisait beaucoup. Et il faisait quelques voyages dans les universités. Et il était très soucieux de l'argent aussi. Parce que c'est un homme qui n'avait fort peu d'argent pour vivre à la fin de ses jours. On ne parlait pas que de ça. C'était pas devenu un soucieux de fin de mois, ni un homme aigre, pas du tout, mais il vivait quand même un peu... Il ne vivait pas dans la nostalgie, ni dans un regret de son passé fantastique. Il essayait de vivre paisiblement dans la petite vie quotidienne difficile de tout le monde.
Et aux États-Unis, il n'a jamais eu envie de revenir en Allemagne? Il n'a jamais parlé de ça?
Non. Non.
Il était devenu américain.
Non, il détestait vivre à Hollywood, peut-être parce qu'il était complètement isolé, et puis qu'il a eu de telles querelles avec toutes les productions qu'il a faites à Hollywood. Il aurait bien voulu venir revivre en Europe, mais il n'avait plus le courage.
On va passer maintenant à un personnage dont vous avez été, alors là, très probablement, très profondément le complice, qui est Marco Ferreri. Et je voudrais parler de ce film, Dillinger Immorto, qui est un film relativement peu connu, malheureusement, mais qui est probablement un des plus beaux films que Ferreri ait fait, en tout cas le plus singulier. Et vous êtes sur l'écran du début à la fin, et je me rappelle de la force de ce film, à partir du moment où... il commence et à partir du moment où il finit, et il est fait sur un seul sentiment, qui est le sentiment de, comment dire, de solitude, de béance. Vous êtes seul sur l'écran au long d'une soirée, dans un appartement. Oui. Là, on retrouve un peu la solitude de, dont vous parliez tout à l'heure. Et un comportement, alors là, très, très exactement aberrant, très, très exactement difficile à comprendre, puisque inexplicable. Vous parlez très peu, pratiquement pas. Il n'y a pas un mot. Il y a pas un mot.
Non, très, très peu.
Et il me semble, alors là, qu'en vous confiant sur ce personnage, Ferreri savait parfaitement ce qu'il faisait, d'une part, et d'autre part, il me semble que là, vous avez dû entrer quasiment dans l'univers intérieur de Ferreri, puisque c'est un film qui est fait absolument au centre de son univers.
Complètement, et là aussi, comme avec Jean-Luc, ça s'est passé comme une lettre à la poste au début. Non, mais ça l'est. Quand on dit ça, on dit, mais mon Dieu, comme c'est facile, ces rencontres. Non, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je me souviens que Marco était venu sur un tournage où j'étais, et puis il m'a dit, je voudrais vous voir. Mais j'ai dit, je m'excuse, je tourne, là, je ne peux pas. Ah oui, ben alors je reviens demain. Alors, je l'ai vu dans un bistrot, il m'a donné 5-10 feuilles. Il me dit, vous ne pouvez pas lire ça. J'ai lu ça, et 5 feuilles qui racontaient cette histoire. En voyant ce personnage, ça compte aussi, ça compte le comportement physique des gens, qu'ils soient metteurs en scène ou qu'ils soient, que ce soit votre boucher, je veux dire. On les choisit tous, non, hein? Oui. S'il y a deux bouchers dans la rue, vous savez pourquoi vous allez dans le premier, non pas dans le second. C'est pas tellement parce que sa viande est meilleure, hein? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe.
Mais absolument, oui.
Alors, quand j'ai vu Ferreri me montrer ça et me raconter ça, mais j'ai dit, oui, je tourne. Je n'avais de cesse de tourner avec lui. Et je dois dire que quand j'ai dit ça dans la profession des gens qui m'étaient proches, je ne veux citer personne parce que je ne veux pas animer la mauvaise querelle des artistes et des agents. Tout le monde me disait, mais pourquoi aller tourner ce film avec Ferreri?
Ah oui, ça, pourquoi? Non, vous avez du point de vue de la carrière, c'était insensé.
Qui est Ferreri? Et en plus, quelle histoire bizarre. Mais, voilà, là aussi, il y a eu un coup de foudre entre Ferreri et moi. Et je dois dire que cette histoire qui vous dites montre l'absurde, l'incohérence, l'incompréhensible. Vous allez me dire, mais je suis fou, moi aussi. Mais ça ne nous est pas tous arrivé d'avoir des moments de vacuum, de solitude, pas de solitude tragique, forcément, d'ailleurs. On n'a pas tous envie de tuer sa femme, ni d'aller sans lire à la bonne pour coucher avec elle, comme ça, la nuit. Mais on peut avoir des moments de vacuum, comme ça, de...
Oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec vous, puisque, effectivement, je me souviens avoir vu ce film, et m'être dit, mais oui, ça m'est arrivé 100 fois, cette vacance, cette béance, avec ce que ça suppose d'ailleurs d'incertitude sur la seconde qui va suivre.
Absolument.
Bon, ça m'est arrivé 100 fois, mais je ne pensais pas que ça pouvait devenir un film, et surtout un film dans cette période de l'histoire où vraiment il fallait raconter probablement cette chose-là.
Oui, et le film a été très incompris et très refusé à l'époque. Un, parce que ça ressort comme un conte extrêmement méchant, non, pour l'individu.
Ah oui, alors, parce qu'il y a la mort à la fin.
Oui, il y a la mort. Il y a la mort, c'est-à-dire que le personnage tue, mais lui ne meurt pas. Il va sur un bateau, le soleil se lève, et une seconde vie va arriver, laquelle on ne sait pas. Mais c'est comme... Et en plus, à l'époque où ça a été fait, en 68, et cette histoire de... Le personnage que je joue est un homme tout à fait bien installé dans la vie, ingénieur de je ne sais quel monstre de scaphandre contre une bombe atomique future, et qui fait au début un long discours sur... justement son travail, etc., qui revient chez lui seul. Et à cette époque-là, c'était considéré comme un film tout à fait anarchique, révolutionnaire, dangereux à montrer, parce que c'était un peu prémonitoire de ce dont on a parlé après, la crise de l'homme de 40 ans qui a la vie béante devant lui, c'est le gouffre. Alors, c'est un film qui a été refusé à cause de ça. Je veux dire que Ferreri a une telle acuité, un œil tellement perçant sur... C'est un entomologiste, hein. En fait, ce sont toujours des cris d'amour impossibles, et c'est d'une méchanceté horrible, non pas pour le prochain, mais pour lui-même. Enfin, il se raconte lui-même.
Oui, non, ça, il n'y a pas l'ombre de... Chez lui, il n'y a jamais l'ombre d'un mépris ou d'une complaisance.
Jamais. Et là, donc, de tourner cette histoire, pour moi, était comme un jeu d'enfant. Un jeu d'enfant.
Ça a dû être dur tout de même, non? Oui. Moralement, non?
Non, ce n'était pas dur. C'était une petite équipe, comme ça, on tournait tout dans cet appartement. Il y avait un espèce de vase clos extraordinaire. Et là aussi, avec Ferreri, il y a une espèce de complicité, d'amitié, de joie à travailler ensemble. Et lui aussi est un technicien, on dit, de cinéma extraordinaire, c'est un homme d'une précision. Mais il m'a permis d'inventer aussi. Il me laissait libre. Et il me laissait tellement libre, et je le voyais tellement s'amuser de me voir libre, je me suis dit, mais c'est ça ce personnage, voilà l'histoire qu'il veut raconter. Un homme qui est au bord d'un changement d'existence, d'une seconde vie, d'une réincarnation dans je ne sais pas quoi. Et tout s'est passé comme ça, d'une façon... Bon, c'était très, très dense comme travail, mais pas dur.
Alors justement, il y a une question que je voudrais vous poser, encore que je soupçonne la réponse, c'est est-ce qu'il se passe réellement sur un plateau avec Ferry ou avec Godard ou avec Buñuel, dont on va parler tout de suite, est-ce qu'il se passe réellement quelque chose qui est de l'ordre du modelage, de la direction d'acteur, du geste, tu ne devrais pas faire ce geste, tu ne devrais pas avoir ce regard, ou alors la longue explication psychologique, ou là, etc. Enfin, ce qu'on appelle la direction d'acteur et qui, à mes yeux, est un peu un leurre, enfin, un peu une idée de cinéphile. Enfin.
Non, cette direction d'acteur, je vous dis, c'est la complicité et le moment d'intimité extraordinaire qui existe entre un acteur et un metteur en scène au moment d'un
tournage. Mais qui ne se formule pas par des idées, ni par des... Il se formule comment ? Dans le cas de Ferrari. Godard, c'était un peu le silence. C'est un peu le silence et le respect.
Oh là là, bah alors si Godard, c'est le silence, alors Ferrari, c'est la tombe.
Ah bon, il ne dit rien ?
Non, il ne dit rien. Mais... Et alors Buñuel, encore moins. Sauter n'en dit pas plus, d'ailleurs. Non, mais je crois que si on prend le temps de vivre et de parler d'autre chose que du film proprement dit avec les metteurs en scène, on finit par comprendre quelle est leur vraie motivation à eux, motivation, mot qu'ils détestent, et pourquoi ils racontent cette histoire. Et par rapport à ce qu'ils pensent de vous, d'Anagra, de la bombe atomique, de l'avion qui coûte trop cher ou du club méditerranéen, je ne sais pas quoi, on comprend... Quel est le scalpel qu'ils veulent utiliser pour faire leur film ?
Est-ce que vous avez senti, avec Ferry, vous avez fait deux films avec Ferry, ou plus peut-être ?
Quatre ou cinq.
Bon,
quelquefois avec des rôles, comme on dit, très courts, mais c'est, avec Ferry, c'est comme une troupe. C'est une troupe, je veux dire.
C'est grâce aux acteurs qu'il peut faire ses films, non ? Que les producteurs les font, non ?
Oui, enfin, c'est grâce à vous, c'est grâce à lui aussi, c'est quand même...
Non, grâce à lui, enfin, il a quand même été considérablement aidé pour Dillinger que par le fait que vous ayez accepté, non ? Enfin, du moins, c'est...
Oui, il a aidé, vous savez, je n'étais... Non, finalement, il a travaillé avec des acteurs commerciaux, comme on dit, et encore, qu'est-ce que ça veut dire ? Enfin, comme Antonianni ou Mastroianni, etc., mais il n'y a qu'un film de Ferry qui a été commercial, il ne faut pas l'oublier. C'est ça populaire, qui a été accepté.
La grande bouffe,
mais les autres films que Tony Alci a fait avec, en Italie avec Ferry, Le rêve de singe avec Mastroianni, nous sommes tous ces acteurs prestigieux et commerciaux qui osent se compromettre avec Ferry, ça serait presque un handicap.
Il y a une question que je me pose un petit peu, c'est savoir si Touche pas la femme blanche, qui a suivi un petit peu la grande bouffe,
tout de suite, c'était...
et qui n'a pas du tout marché, me semble-t-il, c'était pas un peu pour payer le succès de la grande bouffe.
Absolument, tout le monde a fait payer le succès de la grande bouffe, aussi bien, peut-être le public aussi, la même équipe, ils vont pas refaire un film aussi drôle, aussi admirable, ou aussi dégoûtant, je sais pas, et aussi tout ce qu'il y a autour dans la profession, non, on ne va pas encore donner carte blanche à ces fous dangereux. Peut-être que Touche pas à la femme blanche était moins parfait que... Mais c'était un film génial. Hein. Plein d'imperfections, mais génial.
La vie avec Ferry, ça se passe comment alors ? Parce qu'on a vu un peu comment était la vie avec Godard, votre amitié avec Lang. La vie avec Ferry, alors c'est quoi ? Parce qu'il est tout à fait singulier quand on parle avec lui.
Oui, mais Ferry, ce serait un peu comme Godard. C'est un homme très silencieux, très timide, qui a un œil sur toutes les choses, sur les gens, qui peut écouter 5 conversations en même temps, et qui se tait, et qui brusquement peut avoir un accès de parole et de colère extraordinaire. Dans la vie courante, comme ça. Sinon, c'est un silencieux qui regarde, et qui sait capter chez tout le monde l'essentiel. C'est ça aussi le talent d'un metteur en scène pour les acteurs, c'est de bien connaître leur existence, comment ils vivent, pourquoi ils ont voulu être acteurs, qu'est-ce qu'ils ont fait avant, et qu'il sait absolument mettre en état de grâce un acteur. Parce qu'il est aussi, lui, extrêmement attentif à son prochain, comme on dit. Ouais. Contrairement à ce qu'on dit, ce ne sont pas des êtres qui sont dans leur tour d'ivoire fermés, qui ne sont que dans leur monde de création, pas du tout. Ce sont des gens qui ont des yeux ouverts sur tout.
Mais quand vous lisez...
C'est le cas de Fritz Lang.
Oui, bien sûr. Non, mais quand vous lisez des propos, des considérations, des jugements sur des gens que vous avez approchés quotidiennement en travaillant avec eux, est-ce que ça vous paraît pas... Est-ce qu'il vous apparaît pas un écart gigantesque entre la façon dont on en parle et leur façon d'être? Pour prendre un exemple qui est celui de Buñuel, Buñuel a longtemps eu, heureusement que c'est passé, mais il a longtemps eu la mythologie de la cruauté, la mythologie du rasoir dans l'œil, la mythologie de l'Espagne, la mythologie de signification très profonde dont il s'est toujours défendu.
Oui, mais on oublie aussi l'humour que tous ces gens, voilà. L'humour que ces gens-là ont sur eux-mêmes, sur leurs connaissances, sur leur culture, sur leur science, sur leur manie, sur leurs obsessions. Ils ont un humour extraordinaire d'eux-mêmes.
Michel Piccoli, il est peut-être temps de parler de quelqu'un avec qui nous avons malheureusement...
Notre maître à tous.
Oui, voilà, Louise Buñuel. Il se trouve que, bon, maintenant, je vous ai chez moi, puisque j'ai des copies magnétoscopes des films qui sont passés à la télé, et je peux me revoir des scènes de Belle de Jour et revoir Le Journal d'une femme de chambre. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans Belle de Jour, vous jouez un personnage cynique, intelligent, mystérieux, droit, qui file à travers le film son chemin très, très bizarre en même temps, et que alors que dans Le Journal d'une femme de chambre, alors là, je crois que c'est là-dedans que je vous préfère, parce que arriver à jouer l'épaisseur, la sottise, et avec un tel humour que vraiment, le personnage est confondant de beauté, enfin, à la limite.
Oui, mais là aussi, quand on a la chance d'être... Moi, j'ai eu la chance d'être ami avec Buñuel bien avant de tourner avec lui. C'était La mort en ce jardin, il y a 25 ans. Mais j'avais connu Buñuel à Paris pendant un an et demi, mais tout à fait en dehors du monde du cinéma. Alors, encore cette complicité, cette intimité, cette amitié, c'est... Je veux dire, les hommes tombent amoureux les uns des autres. Hein. Mmh. Je veux dire, c'est très important. Je veux dire, c'est des histoires d'amour, des histoires d'amitié entre hommes. Il n'y a là aucune, comme diraient les gens, mon Dieu, il y a de la... Comment ça s'appelle ça? De l'homosexualité. Pas du tout. C'est fantastique.
Mais surtout entre metteur en scène et acteur, quand même. Non,
oui, mais je vous dis, j'avais la chance, avec Buñuel, d'oublier... J'avais oublié qu'il était metteur en scène, il était acteur. Et là, il y avait une... Quand je suis arrivé pour tourner La mort en ce jardin, par exemple, je ne voudrais pas vous raconter comment j'ai réussi à arriver là-bas. Il m'a dit, écoutez, vous n'êtes pas du tout le personnage, mais je suis tellement content de vous voir. Alors, l'humour de Buñuel, mais Buñuel, qu'est-ce que vous voulez c'est un peu des gens de la même famille, tout ça.
Hein. Oui, il semble bien, oui.
Il ne faut pas oublier que Buñuel, c'est vrai, c'est grâce au film de Fritz Lang qu'il a décidé à faire du cinéma. Il était fasciné par les Trois Lumières.
Oui.
Ils ne s'étaient jamais rencontrés de leur vie. Moi, j'étais pas là, hélas, mais quand il y a eu un déjeuner Buñuel-Fritz Lang, quand Buñuel a reçu son Oscar, ça devait être extraordinaire, non? Alors, mais Buñuel, c'est l'homme exemplaire. C'est l'homme le plus rigoureux, le plus droit. C'est un grand bourgeois espagnol. C'est une sorte d'ascète. C'est un homme d'une rigueur. C'est un moine. C'est un espèce de moine de l'imaginaire, mais qui vit avec une régularité exemplaire. C'est comme un compositeur de musique, je ne sais pas. Un copiste, voilà, c'est un copiste. Quand on va chez Buñuel, quand il est à son hôtel L'Aiglon à Paris, ça fait 3 mois qu'il est là en tournage, il n'y a rien. Il y a une petite pièce avec un bar, les bouteilles ne sont pas dessus, elles sont cachées. Et puis, il y a un manteau pendu dans l'entrée, il y a le script sur la table, et puis dans la chambre, il n'y a rien. On ne sait pas s'il a une paire de chaussures, une brosse à dents, il n'y a rien. Mais par contre, il y a une moquette fausse panthère. Alors je lui dis, ou on lui dit, Monsieur Buñuel, vous êtes vraiment un grand metteur en scène, vous avez des suites dans les hôtels à Paris avec des moquettes peau de panthère, quand même, vous êtes arrivé à quelque chose. Il dit oui, non, ça me sert beaucoup parce que quand les petites actrices viennent chez moi, je les fais se coucher par terre, je découpe la moquette et ça leur fait un demi-manteau. Comme ça, elles reviennent, je les remets par terre, je coupe un coup de deux, ça leur fait un manteau entier.
Non, mais alors, je crois que, alors, avec lui, ça va être encore plus difficile de parler d'art, les artistes, etc. Ça va être encore plus difficile de parler, de parler culture avec un K qu'avec quiconque, non?
Ah, complètement. Mais c'est un homme tellement organisé, lui est tellement exigeant et respectueux du travail des autres. Et son travail est tellement précis, tellement organisé, que là non plus, il n'y a rien à dire. Et alors, il sait mélanger l'humour pendant le travail et le manque du travail. Si par hasard, on continue à faire des mots d'esprit ou d'humour ou de plaisanter sur le tournage, alors que ce n'est pas du tout le moment, il a un regard d'une espèce de sévérité et plus personne ne bouge. On est tous comme des élèves à l'école devant le...
Et après, c'est fini.
Après, c'est fini, oui.
Mais enfin, bon, ce personnage que vous avez composé, parce que là, il y a réellement, au sens le plus noble du mot, une composition. Ce personnage est exactement à l'opposé de ce que vous êtes, le personnage du journal d'une femme de chambre. Oui. Et il y a en particulier, ça doit être quand même assez difficile, compte tenu du fait que vous ne l'incarnez pas, ça doit être assez difficile d'avoir ces regards de telle incompréhension. Jouer la bêtise, ça doit être quand même...
C'est pas jouer la bêtise, d'ailleurs. C'est jouer l'homme fermé qui n'ose pas et qui ne comprend pas ce qui lui arrive. Et qui a peur de ses impulsions, de ses désirs, de ses folies, qui a peur de lui-même. C'est pas la bêtise, c'est l'homme fermé sur lui-même.
Bon, alors comment vous est venu, et j'aimerais savoir ce que Buñuel en a pensé, le moment prodigieux où vous, faute de mieux, vous vous contentez de la malheureuse servante qui vous regarde avec un air effaré, etc., et vous lui donnez rendez-vous...
Et
elle pleure. Et vous lui dites, là, je ne sais pas quoi, cette réplique est sublime.
C'est pas ma petite cocotte, non,
oui,
c'est
oui,
quoi
coquine.
Ma petite coquine.
Oui.
Et je me souviens... Justement, particulièrement de cette scène. En plus, c'est moi qui avais présenté à Buñuel Mouni, qui tourne tout le temps avec Buñuel, que je connaissais depuis très longtemps. Il a une passion pour Mouni. Quelqu'un de très cassé, très fragile, très inquiète, comme ça. Et on tourne la scène, et Buñuel vient vers moi, en dehors de la scène, et il me dit, elle va pleurer. Il faut la faire pleurer. Je dis, et à ce moment-là, est-ce que je ne pourrais pas lui dire ma petite cocotte, comme ça, quelque chose comme ça. Il me dit, c'est pas très bien, coquine, il me dit, coquine, voilà, très bien, petite coquine. Alors, au fur et à mesure que la scène avançait, il s'amusait, hein. Ce n'est pas du tout un pervers, ni un mauvais manipulateur des individus ou des acteurs, pas du tout. Et il avançait petit à petit jusqu'à bord des larmes et jusqu'au bord des rires, car lui-même, quand il tourne, c'est par moments arrive le rire tellement fort qu'il a les larmes aux yeux. Alors les larmes de ce personnage de Mouni et les larmes de son rire se confondaient, vous comprenez?
Ah oui, c'est une scène alors, qui est à la fois bouleversante et...
Oui, alors ce bouleversement le faisait rire. Et après, dès que la scène a été tournée, Mouni était en larmes. Il était d'une attention avec elle, mais profonde, sincère, en disant... Peut-être que ça a été trop loin, peut-être que ça l'a bouleversé, peut-être que je l'ai choqué, peut-être que ça lui a fait du mal. Il est après avec les gens d'une profonde douceur, d'une profonde attention, un profond respect vis-à-vis des gens.
Il peut être aussi très très ému, je crois, non? Francisco Rabal m'a raconté qu'à la fin de Nazarin, il pleurait. Sur la scène finale de Nazarin, où Nazarin s'avance, ayant tout perdu, ayant perdu toutes ses illusions, avec les tambours dans la tête, enfin, qu'ils sont les tambours de la Saint-Jean dans son village, etc. Et Buñuel était quasiment en larmes.
Oui, mais il a toujours les larmes du rire ou de la peine à fleur des paupières.
Oui, alors c'est ça. Bon, je crois qu'on est arrivé au bout de cette émission. Merci infiniment, Michel Piccoli, de nous avoir raconté tant de choses sur...
Il n'aurait tellement à raconter, mais pour Buñuel, on pourrait en parler d'une façon très simple. Une fois, je lui avais demandé, on avait un avis, André de Richaud, un ami commun, un poète merveilleux, que tout le monde a oublié, et je lui ai dit, il est mort, est-ce que vous ne voulez pas venir dire quelques mots sur lui à la radio? Il a dit, je ne parle jamais des gens morts. Je donne des croix, comme au restaurant. Sadoul, 5 croix. De Richaud, 4 croix, c'est tout.
C'était Le cinéma des cinéastes, entretien avec Michel Piccoli, au micro de Claude Jean-Philippe, première diffusion le 25 octobre 1981 sur France Culture.